بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، on commence donc ce soir, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'étude du livre Al-Qawa'id al-Arba' du Sheikh, l'imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullah ta'ala. Cette épître est une épître concise mais très riche en bénéfice. L'auteur, rahimahullahu ta'ala, a évoqué dans celle-ci des points essentiels permettant aux musulmans, et notamment à celui qui recherche la science, à apprendre à connaître le tawhid, l'unicité d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et à le distinguer de son opposé, qui est le shirk, le polythéisme, ou l'association à Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, il nous a exposé quelle est la base concernant le tawhid, concernant l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, et quelle est la base concernant le shirk, concernant le polythéisme. Car beaucoup de gens pataugent en ce qui concerne ces deux sujets. Ils ne savent pas quel est le sens du tawhid, quel est le sens du shirk. Ils ne savent pas distinguer entre l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala et le fait de lui donner des associés. Nombre de personnes explique le tawhid et le shirk selon leur passion et selon leur désir. Alors qu'il est obligatoire pour nous, il est obligatoire pour le musulman de revenir dans l'établissement de ses fondements au livre et à la sunna. Au livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Afin que tes fondements et tes bases dans ces deux sujets soient des fondements et des bases authentiques et saint, puisés de sources authentiques, puisés de sources sûres, qui sont le livre d'Allah, la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, selon la compréhension des pieux prédécesseurs. Et notamment, comme on l'a dit, en ce qui concerne ces deux sujets immenses, qui sont le tawhid et le shirk. Le shirk, rahimahullah ta'ala, comme vous allez le voir à travers ce livre, il n'a pas exposé ses règles de lui-même. Il ne les a pas tirées de sa tête ou de ses pensées. Mais il a puisé ses règles du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais également des hadiths authentiques de la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et si tu connais ces règles et que tu connais ces bases essentielles et que tu les comprends, alors après cela, il sera facile pour toi, incha'Allah ta'ala, de connaître qu'est-ce que le tawhid, l'unicité par laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé ses messagers, alayhimu salatu wassalam, et a révélé ses livres. Également, il sera facile pour toi de connaître qu'est-ce que le shirk, qu'est-ce que le polythéisme, contre lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous a sévèrement mis en garde dans son noble livre, subhanahu wa ta'ala, et nous a exposé ses dangers et ses méfaits, ici-bas comme dans l'au-delà. Ce sujet est donc un sujet d'une grande importance. Et c'est la chose la plus importante que tu dois connaître. Il n'y a pas de chose qui t'incombe plus de connaître si ce n'est le tawhid et le shirk. C'est-à-dire apprendre le tawhid pour le mettre en pratique et apprendre ce qu'est le shirk afin de le délaisser, de t'en écarter et t'en prémunir. Et ceci est même plus important que la connaissance des règles de la prière, que la connaissance des règles de la zakat, que la connaissance des règles de l'ensemble des autres adorations et des affaires religieuses. Car cet ordre, ce sujet immense qu'est le tawhid, c'est la base, c'est le fondement de l'ensemble de tes œuvres. Ta prière, ta zakat, ton pèlerinage et toutes tes autres adorations, elles ne peuvent être authentiques, elles ne peuvent être valides et acceptées si tu ne les bases pas sur la croyance saine et authentique, la croyance du tawhid, la croyance de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala et le fait de lui vouer un culte exclusif dans l'adoration. Ceci nous montre donc l'importance du sujet abordé par le cheikh rahimahullah ta'ala dans cet épître. Et l'auteur rahimahullah, il a fait précéder ces quatre règles par une introduction très riche en bénéfices également. Et il a commencé tout d'abord par une invocation immense qu'il a faite en faveur du lecteur et de l'étudiant en sciences. Le cheikh rahimahullah, il commence donc son épître par cette invocation en ta faveur, et ceci afin d'attirer ton attention sur ce qui va venir après, et également, ceci nous montre que le cheikh rahimahullah recherchait à travers cet écrit à faire bénéficier de la science aux musulmans, lecteurs et étudiants en sciences. Il a donc commencé, rahimahullah ta'ala, il a dit « As'alullah al-karim, rabb al-arsh al-azim, an yatawallaka fi d-dunya wal-akhirah » وأن يجعلك مباركا أينما كنت. Je demande à Allah, le très généreux, Seigneur du trône immense, de te prendre pour allié ici-bas et dans l'au-delà, et qu'il te bénisse où que tu sois. وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر فإن هذه الثلاث هي عنوان السعادة. Et qu'il te compte parmi ceux qui remercient lorsqu'on leur donne, patientent lorsqu'ils sont éprouvés et implorent le pardon, c'est-à-dire le pardon d'Allah, lorsqu'ils commettent un péché. Et ces trois choses sont certes les clés du bonheur. L'auteur, rahimahullah, il a donc commencé dans cette introduction par cette invocation immense en faveur de l'étudiant en science et en faveur du lecteur qui cherche à apprendre la croyance authentique, qui cherche à apprendre la croyance conforme au texte du Coran et de la Sunna, et qui recherche la vérité et à se préserver de l'égarement et du polythéisme. Alors, l'auteur a commencé, rahimahullah, par demander à Allah qu'il te prenne pour allié ici-bas et dans l'au-delà. Et certes, si Allah subhanahu wa ta'ala te prend pour allié ici-bas ainsi que dans l'au-delà, alors tu es à l'abri de tout mal. Aucun mal ne peut t'atteindre, que ce soit dans ta religion, tout comme dans tes affaires mondaines. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son noble livre, au verset 257 de Surat al-Baqara, « Allahu waliyul ladhina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur wal ladhina kafaru awliya'uhum at-taghut. » Allah est l'allié de ceux qui ont cru. Il les fait sortir des ténèbres vers la lumière. Quant à ceux qui ont mécru, alors leurs alliés sont le Tarout. Allah subhanahu wa ta'ala, s'il te prend pour allié, il te fait sortir des ténèbres, c'est-à-dire des ténèbres du polythéisme, des ténèbres de la mécréance, des ténèbres des doutes et de l'athéisme vers la lumière de la foi, la lumière du tawhid, la lumière de la science profitable et des œuvres pieuses. Ainsi, si Allah subhanahu wa ta'ala te prend pour allié, alors il t'accordera la réussite et le succès, ici-bas comme dans l'au-delà. Ainsi, tu seras heureux et tu connaîtras un bonheur sans aucun malheur après celui-ci. Ici-bas, Allah subhanahu wa ta'ala te prend pour allié en t'accordant la guidée, en t'accordant le succès dans tes affaires, en te facilitant le cheminement sur la voie authentique. Et dans l'au-delà, il te prend pour allié en te faisant entrer dans son paradis, pour y demeurer éternellement, un paradis dans lequel tu ne connaîtras ni peur, ni faim, ni maladie, ni malheur, ni vieillesse, ni aucune chose néfaste. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous compter parmi les habitants de son paradis. Donc, ceux-ci sont les avantages qu'obtient celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala a pris pour allié. Et comme vous le voyez, toutes ces choses sont des bienfaits immenses qu'obtient le serviteur à qui Allah subhanahu wa ta'ala a accordé son alliance. El walaya, dans la langue arabe, elle implique le rapprochement et l'amour. Donc, si Allah subhanahu wa ta'ala te prend pour allié, cela signifie qu'il te rapproche de lui et qu'il t'aime subhanahu wa ta'ala. Ibn al-Qayyim, rahimahullahu ta'ala, a dit « El walaya, l'alliance, à la base, provient de l'amour. Car il n'y a pas d'alliance sans amour. Tout comme, al-adawa, l'animosité, provient de la haine. Allah subhanahu wa ta'ala est donc l'allié des croyants et eux sont ses alliés. Donc, ils s'allient à Allah subhanahu wa ta'ala en vouant leur amour à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala les prend pour alliés en les aimant. Allah subhanahu wa ta'ala, il prend donc pour allié son serviteur en fonction de l'amour que son serviteur lui voue. Allah subhanahu wa ta'ala, il prend donc pour allié son serviteur en fonction de l'amour que son serviteur lui voue. Ceci est le sens rapproché de la parole de l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, qui est dans son livre « La maladie et son remède » « Adda wa dawa ». Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, il a invoqué pour toi pour qu'Allah te bénisse où que tu sois. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala place en toi la bénédiction quel que soit l'endroit où tu te trouves. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala mette la bénédiction dans ton temps. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala mette de la bénédiction dans ta subsistance. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala mette de la bénédiction dans ta science. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala mette de la bénédiction dans tes œuvres, ainsi que dans ta descendance, et que la bénédiction t'accompagne où que tu sois. Il n'y a pas de doute que ceci est un bien immense, que ceci est une grâce immense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala place la bénédiction en son serviteur. L'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, a expliqué dans un de ses ouvrages qu'est-ce que la bénédiction de l'homme ? Qu'est-ce qu'un homme béni ? Il a dit, rahimahullah, selon le sens rapproché, la bénédiction de l'homme, c'est qu'il enseigne le bien où qu'il aille et qu'il porte le conseil à toute personne avec qui il se réunit. Allah subhanahu wa ta'ala a dit au sujet d'El Messih, Isa alayhi salam, « وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتْ » Et il m'a rendu béni où que je sois, c'est-à-dire enseignant du bien, appelant à Allah subhanahu wa ta'ala et rappelant Allah subhanahu wa ta'ala et encourageant à l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci est donc la bénédiction de l'homme. Ceci est le sens rapproché de la parole de l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah qu'il a mentionné dans sa courte épître intitulée La lettre d'Ibn al-Qayyim à l'un de ses frères. Ceci est donc la manière pour l'homme d'être béni, qu'il enseigne le bien où qu'il soit et qu'il fasse profiter aux gens du bien qu'il a appris. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, il a mentionné trois choses qui sont liées les unes aux autres. Et ces choses, il a terminé en nous disant que ce sont les clés du bonheur. Et vous allez comprendre pourquoi, inshallah. Il a donc dit وَأَنْ يَجْعَلَكَ مِمَّنْ إِذَا أُعْتِيَ شَكَرَ Et qu'il te compte parmi ceux qui, lorsqu'on leur donne, sont reconnaissants. Contrairement à ceux qui, lorsqu'on leur donne, ils sont ingrats et ne reconnaissent pas le bienfait sur eux. Beaucoup de gens, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala leur accorde un bienfait, ils sont ingrats envers Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ne reconnaissent pas ce bienfait. Et ils utilisent ces bienfaits dans autre que l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors en réalité, ce bienfait qu'ils ont obtenu, qu'est-ce qu'il se passe ? Il devient la cause de leur malheur. Car ils ne l'ont pas utilisé dans le bien et dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que celui qui est reconnaissant envers Allah lorsqu'il lui accorde un bienfait et qui remercie Allah subhanahu wa ta'ala, alors Allah subhanahu wa ta'ala lui rajoute de ses bienfaits. Comme il a dit subhanahu wa ta'ala, dans le verset 7 de la sourate Ibrahim, « La in shakartum la azidannakum » Et si vous êtes reconnaissant, si vous remerciez, je vous rajouterai. C'est-à-dire, j'augmenterai sur vous mes bienfaits. Donc, lorsque le serviteur est reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, de par sa grâce et sa bienfaisance, il augmente ses bienfaits sur son serviteur. Plus tu seras reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala pour les bienfaits qu'il t'accorde, plus Allah subhanahu wa ta'ala t'accordera de ses bienfaits. Quant à celui qui est ingrat et qui ne reconnaît pas les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors ceci est une cause pour qu'il soit privé de ses bienfaits et que ces bienfaits-là se dissipent. La question qui se pose maintenant, c'est comment être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala pour ses bienfaits. La reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala, elle a lieu de trois manières. Elle a lieu par le cœur, elle a lieu par la langue et elle a lieu par les membres, c'est-à-dire les membres du corps. Quant à la reconnaissance par le cœur, c'est le fait que tu aies la ferme conviction et que tu reconnaisses que ce bienfait qui t'a été accordé, il provient d'Allah subhanahu wa ta'ala et de nul autre que lui. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le verset 53 de Surat An-Nahl, وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Et il n'y a pas un bienfait que vous obteniez sans qu'il ne provienne d'Allah. Tous les bienfaits que vous avez proviennent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il fait partie de la reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala que tu reconnaisses par ton cœur que ce bienfait provient de lui subhanahu wa ta'ala. Quant à la reconnaissance par la langue, c'est le fait que tu proclames ce bienfait et que tu en parles en faisant des louanges à Allah subhanahu wa ta'ala et en reconnaissant par ta langue que ce bienfait provient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Non pas pour te vanter, non pas pour mépriser tes frères et tes sœurs, non pas pour t'enorgueillir de par ce bienfait qui t'a été accordé, mais pour reconnaître que ce bienfait provient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit, وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. Quant au bienfait de ton Seigneur, alors proclame-le, parle-en, loue Allah subhanahu wa ta'ala pour ce bienfait qui t'a été accordé. Et l'imam Ibn Jarir, rahimahullah, a rapporté dans son tafsir un athar d'un tabi'i nommé Abu Nadra, rahimahullah ta'ala, qui a dit « Les musulmans voyaient qu'ils faisaient partie de la reconnaissance des bienfaits, de les proclamer et d'en parler. » Donc, ceci est une manière d'être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala, en parlant et en exposant et en le louant pour les bienfaits qu'il t'a accordé, subhanahu wa ta'ala. La troisième manière d'être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala, c'est d'être reconnaissant par les membres, c'est-à-dire par les membres de ton corps. Et ceci consiste à utiliser ses bienfaits dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le verset 13 de Surat Saba, I'malu ala Dawood shukra. Œuvrez, ô famille de Daoud, par gratitude, par reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme vous le savez, il est rapporté de lui qu'il priait la nuit jusqu'à ce que ses pieds se fendissent. Et lorsqu'il a été interrogé à ce sujet, il a répondu, ne serais-je pas un serviteur reconnaissant? Donc, si tu souhaites être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala pour les nombreux bienfaits qu'il t'a accordés, et parmi ses plus grands bienfaits, le bienfait de l'islam, le bienfait du suivi de la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, le bienfait de l'étude de la science, le bienfait de la santé, et autres parmi les nombreux bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordés et que l'on ne peut dénombrer, à leur œuvre dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, et ainsi tu seras compté parmi ses serviteurs reconnaissants. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, il a dit, وَإِذَا بْتُلِيَ sabar, c'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala te compte également parmi ceux qui, lorsqu'ils sont éprouvés, font preuve de patience. Ils sont endurants. Et ceci est une invocation de plus du shaykh, rahimahullah, en ta faveur. Ici, il a voulu attirer ton attention que tu as emprunté un chemin, le chemin de l'islam, le chemin de la sunna, et que ce chemin est parsemé d'embûches, et donc tu vas être éprouvé. Tu dois donc faire preuve de patience sur ce chemin. Tu dois faire preuve de patience dans l'appel au tawhid, dans la mise en pratique du tawhid, dans la mise en garde contre le shirk, et tu dois patienter sur cela. Allah subhanahu wa ta'ala, il éprouve ses serviteurs de différentes manières. Il les éprouve par les maladies, par des choses préjudiciables ou autres, et il les éprouve également par leurs ennemis, parmi les mécréants et les hypocrites ou autres. Les serviteurs doivent donc faire preuve de patience. Ils ne doivent pas s'impatienter et ils ne doivent pas désespérer de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais le musulman, face aux épreuves, il doit rester ferme sur sa religion. Ils ne doivent pas s'ébranler lors de l'apparition des troubles, mais ils doivent rester fermes. Tu dois rester ferme sur ta religion et ne pas te soumettre aux fitaines, ne pas te soumettre aux troubles, que ces troubles soient des troubles liés à la religion ou des troubles liés au désir de ce bas monde. Mais tu dois rester ferme sur ta religion, patienter sur celle-ci, patienter sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ne pas être mécontent face aux épreuves qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a décrétées. Certaines personnes, lorsqu'ils sont éprouvés, ils ne font que se plaindre. Ils rejettent l'épreuve qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a destinée. Ils sont fâchés contre Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci est un manque de comportement envers Allah subhanahu wa ta'ala. D'autres désespèrent de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsqu'ils sont éprouvés, ils pensent qu'il n'y a plus d'issue. Ils ne croient pas en la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a annoncé que la bonne fin est pour la piété et que la bonne fin est pour les pieux. Le musulman, il doit donc patienter. Il ne doit pas être comme ces gens qui ne patientent pas face aux épreuves. Car si tu te fâches et tu te courrousses face au décret d'Allah subhanahu wa ta'ala, ceci ne fera que rajouter épreuve à ton épreuve. Et tu dois te rappeler qu'Allah subhanahu wa ta'ala, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous en a informé, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala aime un peuple, alors il les éprouve. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé que les gens les plus éprouvés, ce sont les prophètes, puis ceux qui les suivent. Donc, tu dois te rappeler que les messagers d'Allah alayhi wa sallatu wa sallam, ils ont tous été éprouvés. Les véridiques, ils ont été éprouvés. Les serviteurs pieux d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils ont tous été éprouvés. Et ils ont patienté et ils sont restés fermes sur la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce bas monde, tu ne passes pas dans celui-ci seulement pour profiter des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais si tu suis le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala et que tu recherches l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors tu dois savoir que tu seras nécessairement éprouvé. Et rappelle-toi comment les compagnons du prophète alayhim salatu wa salam, ceux qui sont les meilleurs de la communauté après le messager, rappelle-toi ce qu'ils ont connu comme épreuve. Rappelle-toi ce qu'ils ont connu comme difficulté. Et ceci t'aidera à patienter, incha'Allah ta'ala. Donc le serviteur qui est véridique envers Allah, il doit préparer son âme à patienter face aux épreuves. Et tu dois savoir que ces épreuves, elles ne sont pas spécifiques à ta personne, mais que ceci est arrivé avant toi aux alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala, parmi les meilleurs des créatures et les meilleurs des hommes qui sont les messagers alayhimu salatu wa salam, ainsi que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc tu dois les prendre comme modèle et faire preuve de patience et attendre le secours d'Allah subhanahu wa ta'ala, tout en sachant que la bonne fin est pour les pieux. Ensuite le shaykh rahimahullah ta'ala, il a dit: wa idha adhnaba istaghfar, et lorsqu'il commet un péché, implore le pardon, c'est-à-dire le pardon d'Allah. Donc, il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il te compte parmi ceux qui, lorsqu'ils commettent des péchés, implorent le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car celui qui commet des péchés et n'implore pas le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors ses péchés ne feront qu'augmenter. Il ne se remet pas en question et il n'y a pas de doute que celui-ci sera malheureux et le refuge est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le serviteur croyant, qu'est-ce qu'il doit faire? À chaque fois qu'il commet un péché, il se remet en question et implore le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tous les enfants d'Adam font des péchés. Et les meilleurs d'entre eux, qui sont-ils? Ce sont ceux qui se repentent, ceux qui implorent le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala et se repentent suite au péché qu'ils ont commis. Donc, à partir du moment où tu sais qu'il est inévitable pour toi de commettre des péchés, tu dois savoir qu'est-ce qu'il t'incombe après avoir commis ces péchés. Il t'incombe d'implorer le pardon d'Allah et de te repentir de ce péché. Tu dois t'empresser de te repentir à chaque fois que tu tombes dans un péché. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le verset 135 de sourate Ali Imran: « وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. Et pour ceux qui, s'ils ont commis quelque turpitude ou causé quelque préjudice à leurs propres âmes, c'est-à-dire en désobéissant à Allah, se souviennent d'Allah et demandent pardon pour leurs péchés. Et qui est-ce qui pardonne les péchés si ce n'est Allah? Le croyant, lorsqu'il commet un péché, il s'empresse de se repentir. Et s'il fait cela, alors ce péché, ce sera la cause en réalité de son bonheur car il lui aura permis de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala par le repentir. Et comme l'ont mentionné certains parmi les salafs, il se peut qu'un péché soit la cause du bonheur du serviteur. Et il se peut qu'une bonne action soit la cause de son malheur. Comment? Lorsqu'on écoute cela, on pourrait se demander comment cela est possible. La réponse est qu'il se peut qu'un péché, il engendre dans ton cœur regret et que tu te repentes à Allah subhanahu wa ta'ala d'un repentir sincère et te rapproches d'Allah subhanahu wa ta'ala et que ta situation après ce péché soit meilleure que celle avant ce péché. Alors qu'il se peut qu'une personne accomplisse une bonne action et qu'il s'enorgueillisse et qu'il soit pris d'orgueil et qu'il méprise ses frères et ses sœurs car il a accompli cette bonne action. Alors, cette bonne action, elle sera pour lui source de malheur ici-bas et dans l'au-delà. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, comme on l'a vu dans le verset, il nous incite à implorer son pardon lors de l'accomplissement des péchés. Et il dit ensuite « وَلَمْ يُسِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ » et qui ne persiste pas sciemment dans le mal qu'ils ont fait. C'est-à-dire que le croyant, il ne doit pas persister dans le péché. Mais il doit s'empresser de se repentir et d'implorer le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il commet un péché. Ceci est donc ce qui incombe au croyant après avoir commis un péché. Et ces trois choses, l'auteur rahimahullah ta'ala, il termine son invocation en disant « Et ces trois choses sont les clés du bonheur. » C'est-à-dire le fait d'être reconnaissant lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala t'accorde un bienfait. Le fait d'être endurant lors des épreuves et le fait d'implorer le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala après avoir commis un péché. Celui qui accomplit ces trois choses, il connaîtra le bonheur ici-bas et dans l'au-delà. Et il sera préservé du malheur. Et le plus grand des bonheurs, qu'est-ce que c'est? Le plus grand des bonheurs, c'est le fait d'entrer au paradis. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le verset 108 de Surat Hud, « وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ » Quant à ceux qui ont été heureux, alors ils seront au paradis. Et le plus grand des malheurs, il n'y a pas de doute que c'est le fait d'entrer dans le feu de l'enfer et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous en préserver. Donc ces trois choses que l'auteur rahimahullah a mentionnées à la fin de cette invocation, ce sont les clés du bonheur pour le serviteur. Et ce sont les signes de sa réussite et de son succès ici-bas, tout comme dans l'au-delà. Et le serviteur, si tu médites, tu verras qu'il est constamment dans l'une de ces trois situations. Soit il est dans un bienfait et il se doit d'être reconnaissant pour celui-ci. Soit il est dans une épreuve et il se doit d'être endurant. Soit il est en train d'accomplir un péché et il se doit de s'empresser, de se repentir. On demande donc à Allah, subhanahu wa ta'ala, de nous compter parmi ses serviteurs reconnaissants, patients et repentants. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa jazakumullahu khayran. Et on se retrouve insha'allahu ta'ala demain à la même heure pour la suite de l'étude de cet épître. Barakallahu fikum.